Le marché de Noël solidaire correspond à un besoin pour les organisateurs comme pour les associations participantes d'être présents dans l'espace public. Il s'agit bien entendu d'une occasion de récolter des fonds, mais au-delà de ça, d'aller à la rencontre du public, de l'informer et de lui présenter les actions des organisations. Cette séance dans l'espace public n'est pourtant ni évidente ni simple. Elle soulève de nombreuses questions, notamment stratégiques. Pour les aborder, nous avons le plaisir d'accueillir deux représentants d'associations qui, chacune à sa manière, occupent la rue pour faire entendre sa voix et ses revendications. Tout d'abord, Nadia Benen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole d'Amnesty. La question de l'information et de la visibilité de l'association, c'est une préoccupation constante.
Alors, je ne dirais pas que c'est au centre de notre préoccupation. Ça découle plutôt automatiquement d'une série d'actions qu'on fait chez nous. Donc, avant les fêtes de Noël, on a plusieurs types d'actions qui sont instaurées maintenant depuis très longtemps. On a notamment notre marathon des lettres qui défend des personnes dont les droits sont violés dans les quatre coins du monde. Ça, c'est en général autour de la journée du 10 décembre, la journée pour les droits humains. Et ça s'étale plusieurs jours avant et après. Et puis, on est aussi très présent par divers groupes. On a aussi un très grand nombre de groupes. On a plus de 80 groupes en Suisse. Ça fait des dizaines, des centaines de personnes qui ont à cœur d'organiser des actions. Et puis, du coup, en découle une visibilité. Mais je dirais pas qu'on part d'une envie d'être visible. C'est vraiment la visibilité. Elle fait partie de notre... Elle est une conséquence de notre moyen d'action traditionnel.
Pour parler de cette question de visibilité, nous avons également autour de la table Raymond Georges, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif Urgence Palestine, une association beaucoup plus petite qu'Amnesty. Est-ce que la taille, ça compte au moment de se faire entendre ?
Oh ben, je pense qu'au niveau des moyens à disposition, effectivement, qu'une petite association qui vit de la cotisation de ses membres a moins de possibilités qu'une fondation Carnegie, par exemple. Mais pour venir à l'information, je pense que pour nous, l'information, notre présence sur la place publique est essentielle. Parce que ce qui nous a frappé, je fais une petite parenthèse, ce collectif a été fondé par des gens qui ont été en mission civile en Palestine. Certains se sont retrouvés pendant l'opération Rempart en 2002, etc., etc. Moi, j'y ai été plusieurs fois. Et ce qui est frappant, ce qui est choquant même, c'est la manière dont la réalité vécue par les Palestiniens est occultée chez nous. C'est toujours le point de vue israélien qui, dans le 90% des cas, est présenté. Je ne dis pas qu'il s'agit de mensonges, de manipulations, mais il y a un tri qui est fait déjà au départ par les agences de presse qui choisissent à la source ce qu'elles vont transmettre. Et là, nous, notre rôle, c'est justement de faire de la contre-information.
Nadia Benen, vous constatez la même chose que Raymond Georges au niveau de l'inéquité des paroles ?
Au niveau du différentiel de poids qui est donné à certains types d'informations ou non, effectivement, ça c'est très net. Il y a des informations qui sont considérées par les journalistes comme sexy, attrayantes et qui vont faire...
Vendeuses.
Voilà, et puis il y en a toute une série d'autres qu'on trouvera beaucoup moins intéressantes et puis qu'on aura tendance à laisser de côté. Ça, c'est très, très clair. Et on sait lesquelles vont, entre guillemets, marcher, lesquelles ne marcheraient pas. Et puis, on essaye de diffuser aussi, d'informer sur ces informations moins attrayantes aux yeux des journalistes.
Donc, on va faire notre autocritique, hein, dès que les micros seront coupés. mais peut-être, du coup, alors, si on ne peut pas accéder, disons, en tant qu'association ou en tant que cause, on ne peut pas accéder directement à la parole médiatique et qu'on fait, justement, comme vous le disiez, Raymond, de la contre-information, quelle stratégie est-ce qu'on met en place ?
Eh bien, je veux dire que ce qu'on a essayé de faire, c'est justement ce qu'on fait, d'abord, c'est ce stand au marché qui nous permet, toutes les semaines, hein, depuis plus de 10 ans, de donner au public simplement le fait que la Palestine existe, ne serait-ce que ça. C'est déjà pas mal. Ensuite, présenter aussi les informations du point de vue palestinien pour contrebalancer le poids des informations qui sont données plutôt du point de vue israélien. On a eu pendant quelques années, on a fait un journal trimestriel qui s'appelait Entre les lignes, où on reprenait justement des articles qui venaient d'études faites par les Palestiniens ou par des anticolonialistes israéliens d'ailleurs aussi, ou des rapports de mission, des textes, des analyses reprises sur des sites palestiniens, aussi bien des sites palestiniens d'Israël, hein, parce qu'il y a quand même 20% de la population israélienne qui est palestinienne, il ne faut pas l'oublier, puis aussi de Gaza ou de Cisjordanie, et puis les médias aussi extérieurs, par exemple Electronic Intifada, qui est le site de la diaspora palestinienne aux États-Unis, qui est un site très bien informé. Alors, je dirais que nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a un biaisage quasiment systématique. Si vous me laissez 4 petites minutes, c'est possible.
4, c'est long, hein, en radio.
On va dire 3. Non, mais je dis simplement une petite phrase qu'on a lue dans pas mal de journaux et de médias à propos des événements du mois passé. Hein. Le nouveau cycle de violence a été déclenché par l'assassinat de 3 colons. Alors, du point de vue israélien, c'est parfaitement exact. Mais du point de vue palestinien, il y a 2 erreurs et une omission. La première erreur, c'est que les violences n'ont pas commencé avec l'assassinat de ces colons, mais par les attaques systématiques de l'armée et des colons israéliens contre la mosquée Al-Aqsa, qui est le 3e lieu saint de l'islam. Ensuite, ce n'est pas un nouveau cycle de violence, parce que la violence, elle est continue pour les Palestiniens. Elle est continue parce que même dans les périodes de calme où on ne parle pas de la Palestine dans les journaux, il y a des morts, des blessés qui sont abattus par l'armée israélienne. Il y a des raids dans les villages et dans les villes. Et de ça, on n'en parle pas.
Mais quand vous êtes sur votre stand marché et que vous parlez à la population lausannoise, vous avez l'impression que cette réalité palestinienne, elle est comprise, elle est entendue, ou bien les gens n'en ont aucune idée ?
Moi, l'impression que j'ai, c'est que les gens sont reconnaissants d'avoir quelqu'un qui les informe d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, justement. Et les gens sont surpris. Certains réagissent d'une manière plus ou moins violente, mais la plupart, c'est rare, je veux dire. Et la plupart, au contraire, s'intéressent et puis ont envie de creuser. Ce qui fait que notre travail n'est pas, même s'il n'est pas, ce résultat n'est pas fantastique, il est utile quand même parce qu'il modifie les consciences.
Vous, Nadia, avec Amnesty, vous avez effectivement aussi une grande présence dans l'espace public, mais elle passe aussi par des stratégies qui sont un peu différentes, par exemple des campagnes d'affichage ou justement le marathon des lettres. Comment vous mesurez ensuite l'impact que vous pouvez avoir et donc la pertinence ou l'efficacité d'une stratégie par rapport à une autre ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure une stratégie par rapport à une autre. Souvent, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir, on appelle ça comme ça dans le jargon interne des ONG maintenant, une communication intégrée, c'est-à-dire qui a recours à l'ensemble des moyens de communication. Alors, l'idéal serait d'avoir l'affichage, la présence dans les médias, la présence à travers les actions de groupe dans les rues, plus du lobbying politique. Donc ça, c'est un ensemble très efficace qui peut faire évoluer et les mentalités et aboutir aussi à des changements au niveau des décideurs. C'est très difficile. Il faut rester, pour chaque action ou pour chaque type de moyen qu'on utilise, je crois qu'il faut rester modeste et puis voir que c'est un ensemble de moyens qui produit des résultats.
Mais vous ne pensez pas non plus l'extrême inverse qui dit tant qu'on parle de nous, en bien ou en mal, c'est égal, on parle de nous au moins ?
Non, pas du tout. Alors, je suis sûre, on choisit très soigneusement nos cas. Par exemple, là, pour le marathon des lettres, cette année, ils sont liés aux droits sexuels et reproductifs. Ils sont choisis de manière emblématique. Ils font réfléchir sur des problématiques différentes dans des régions différentes. Le mariage forcé en Afrique des mineurs, la peine d'emprisonnement pour l'avortement ou des fausses couches au Salvador. Et puis les agressions pour des personnes homosexuelles. Donc c'est des cas emblématiques, ça pousse les gens à réfléchir et soigneusement penser avant d'être porté dans l'espace public.
Donc vous avez tous les deux, via vos associations, des plaidoyers qui sont quand même assez différents sur des thématiques plus ou moins aisées de défendre. Comment est-ce qu'on met sur la scène publique une problématique qui est très clivante ou sur laquelle les gens ont des idées préconçues très fortes, surtout dans l'atmosphère actuelle? Peut-être Raymond Georges d'abord.
Est-ce qu'il répète
Pardon, c'était un peu long, j'étais un peu verbeuse. Je vais recommencer. Donc quand on a une problématique qui est assez clivante ou sur laquelle les gens ont l'impression de déjà tout savoir, ou des idées toutes faites, comment on fait pour déconstruire ça?
Ah ben, et on présente l'exemple inverse, quoi. Je veux dire, ça c'est, par exemple, un truc qu'on a, une action qu'on a faite à l'époque où il y avait, c'était en 2002, 2003, 2004, donc là, en pleine deuxième intifada, il y avait les attentats de suicide, hein, parce qu'ils ont cessé les attentats de suicide en 2004. Histoire de contrebalancer. On s'est mis à afficher sur notre stand le rapport du Centre palestinien des droits de l'homme qui dit combien de Palestiniens civils ou résistants ont été tués. Et là, on se rend compte que simplement, en général, pour... J'aime pas ce genre de bilan macabre, hein, mais en général, pour un Israélien tué, il y avait en général 20 à 30 Palestiniens tués. On voit encore, on l'a vu encore l'année passée à Gaza.
Voilà, bon, c'est des bilans effectivement qui valent ce qu'ils valent. Chaque vie a son importance, mais ils permettent en tout cas rééquilibrer en partie une information qui par ailleurs comporte les biais, dont vous parliez. Ce qui m'intéresse dans ce que vous nous avez dit, Nadia Penen, c'est le fait de choisir des cas emblématiques ou de choisir avec soin un certain nombre de problématiques ou de cas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de politiquement correct qu'on ne peut pas dépasser ou des limites internes qu'on s'impose en se disant « Ah, mais cette personne, effectivement, elle mérite d'être défendue, mais on ne va pas pouvoir parce qu'il y aura tel problème politique ou diplomatique ou thématique qui va nous empêcher de traiter ce cas spécifique. »
Je vais répondre en deux parties. D'abord, quand on défend des cas, on n'est pas tellement dans le politiquement correct, on est plutôt dans comment on va atteindre des objectifs. Donc on choisit les cas en fonction de la situation du pays pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc c'est ça qui définit les cas, puis après de ça résulte la communication. Et puis c'est pas à partir de la communication qu'on choisit les cas. Et puis sinon, il y a des cas qui sont, enfin quand on parle comme ça dans la radio, ou les gens, les groupes qui travaillent dans la rue le savent aussi, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à défendre, pour lesquelles on ne critiquera jamais Amnesty International. Défendre la torture, ça c'est toujours fantastique.
Défendre la torture, ça c'est mal.
Lutter contre la torture, je commence à fatiguer. Lutter contre la torture, c'est toujours bien. Lutter contre la peine de mort, c'est toujours fantastique. Par contre, quand vous commencez à pointer du doigt les discriminations que subissent les travailleurs musulmans, là, ça devient problématique. Quand vous commencez à défendre la possibilité pour les travailleuses du sexe d'être défendues, puis non pas le fait d'interdire la prostitution, là, ça devient politiquement moins correct. Quand vous défendez le droit de porter la burqa, là, c'est aussi, vous attendez à une série de réactions. Quand vous défendez le droit à l'avortement aussi, vous allez recevoir des protestations. Donc, mais on travaille sur les différents domaines, donc on ne fait pas attention au politiquement correct.
Il y a un autre travail de visibilité qui est important et plus discret, c'est celui qui concerne les relais politiques. De votre cas, Raymond Georges, est-ce que le collectif Urgence Palestine fait ce qu'on appelle du lobbying?
Écoutez, on fait, disons, au niveau suisse, parce que le collectif Urgence Palestine n'est pas seul. Hein. Il y en a un à Genève, il y en a un à Neuchâtel, il y a Solidarité Palestine à Bâle, il y en a à Zurich, etc. Alors, on fait du lobbying politique au niveau suisse, par exemple, par des pétitions contre l'achat des drones, par exemple. Puis sinon, ben, je veux dire qu'au niveau du personnel, ben, on a eu pendant quelques années un membre du collectif Urgence Palestine au Conseil des États, Monsieur Recordon. Mais, et on essaye justement d'avoir des relais là, mais bon, je veux dire que on ne peut pas vraiment parler de lobbying politique, je ne crois pas. Je sais plutôt au niveau de la population qu'on essaye de faire lever un mouvement qui ensuite va nous permettre d'influencer sur les autorités.
Se traduire dans les urnes, si possible. Ouais. Et dans le cas d'Amnesty, même question, en fait, est-ce que c'est important d'avoir un bon réseau au sein du monde politique pour soutenir les actions ?
C'est extrêmement important. Je pense qu'on fait un excellent travail de lobbying. Et puis, je pense que le lobbying couplé avec le travail de communication, ça peut produire vraiment beaucoup d'effets. Si tout d'un coup, vous êtes très présent dans les médias sur une question, puis qu'en même temps, vous contactez les personnes concernées au niveau étatique, vous pouvez avoir un bon résultat. Puis aussi le lobbying régulier par des lettres aux personnes concernées, c'est vraiment crucial. On voit d'ailleurs avec plaisir parfois que des personnes au niveau étatique reprennent nos propos ou ont les mêmes propos que nous. Donc,
mais est-ce que vous avez une politique, je vais pas utiliser ce mot parce que ça va être tout confus à la fin, mais est-ce que vous avez une action concrète pour construire ce réseau
au sein du monde politique. On a des lobbyistes auprès. On a deux lobbyistes fixes, mais on a aussi nos responsables de campagne, nos coordinateurs, nos personnes en charge de l'asile qui font du lobbying. Donc on en a deux qui sont vraiment des lobbyistes, puis on a d'autres personnes, les responsables de campagne, qui, en plus de créer des campagnes sur certains sujets, font du lobbying. Et puis maintenant, Amnesty a déménagé. Amnesty avait un bureau régional à Lausanne. Elle est maintenant installée à Genève, où elle a fusionné avec la délégation auprès des Nations Unies. Et là aussi, on a 2 à 3 lobbyistes auprès des Nations Unies. Donc c'est très important, le travail de lobbying.
Merci beaucoup, Nadia Benen et Raymond Georges, d'être venus ce soir nous apporter vos éclairages. On rappelle que vous travaillez respectivement pour Amnesty International Suisse et pour le collectif Urgence Palestine, deux associations qui seront présentes en chair et en os à Pôle Sud lors de ce marché de Noël solidaire les 10, 11 et 12 décembre au Flon. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Et bonne soirée à vous. Merci. Et à très bientôt.